Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Jeudi, Daniel Kachama.
Okapi.
Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Comment aider son enfant à devenir autonome, responsable? Isidore Bamanaï, psychologue et éducateur à la vie, est notre invité depuis la ville de Mbujimayi. Isidore Bamanaï, bonjour.
Bonjour Jordi, bonjour aux auditeurs de la radio au Capi.
Bienvenue dans cette émission. On vous retrouve dans quelques instants pour échanger autour de ce thème. Comment aider son enfant à devenir autonome, à devenir indépendant, responsable. Des questions et préoccupations. Le standard est ouvert. Composez le 085 42 11 545. Deuxième thème du jour, nous allons parler de la création de l'Ordre national des professeurs d'université. C'est l'une des recommandations du congrès d'études congolaises organisé par l'Université officielle de Mbujimayi. Les acteurs du monde universitaire et scientifique congolais ont proposé la création de cet ordre pour protéger, n'est-ce pas, la profession contre l'infiltration des faussaires. On en parle dans la deuxième partie de cette émission avec le professeur Ngoma Binda. Il est professeur émérite à l'Université de Kinshasa. On aura également M. l'abbé Apollinaire Chibaka Chikongo, recteur de l'Université officielle de Mbujimayi. Voilà ainsi présenté le menu d'Okapi Service aujourd'hui. Benjamin Mudumbi assure la coordination et la réalisation. Paul Badianyama à la mise en onde. Pour participer à l'émission, composez le 085 42 11 547. Merci de nous suivre sur Canal Plus, fréquence 951. Bienvenue à tous.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal Plus, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Eh oui, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons échanger à présent autour de cette thématique, comment aider son enfant à devenir autonome, à devenir responsable, à devenir indépendant. Vous savez, l'autonomie est une compétence qui s'acquiert petit à petit pendant toute l'enfance et l'adolescence. On peut apprendre son enfant à bien gérer l'argent, à entretenir la maison, à faire des achats, à cuisiner, à résoudre des problèmes, à prendre des décisions, à s'occuper de ses petits frères, petites etc. Pour certains, c'est un grand pas vers la vie adulte. Cependant, certains adolescents estiment qu'ils subissent une forte pression de la part de leurs parents qui les encourage à devenir responsables déjà quand ils sont dans la vingtaine. Et c'est une mauvaise appréciation, une paresse ou un faux débat. En tant que parent ou éducateur, quelles sont les méthodes appropriées à adopter pour aider les jeunes à développer l'essence de l'autonomie, la confiance en soi, le sens de responsabilité de manière progressive et encourageante? Comment les rendre capables d'affronter les difficultés de la vie sans les décourager ni les épuiser? Eh bien, on aura des réponses à toutes ces questions avec notre invité Isidore Bamanaï, qui est psychologue et éducateur à la vie. La première question est de savoir, Isidore Bamanaï, c'est quoi l'autonomie? Quand on parle d'un enfant autonome, indépendant, qu'est-ce que cela veut dire?
Merci beaucoup, Jody. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de vous remercier pour l'invitation et pour les sujets que vous avez alignés aujourd'hui.
Papa, Isidore, on vous entend de loin. Est-ce que si vous avez activé la main libre, merci de désactiver pour nous permettre de bien vous entendre.
Je ne suis pas habitué à ce genre de choses, je dis.
Ok.
Les femmes appellent tel que ça m'arrive. Je voulais dire, la grande question de l'éducation des enfants, si on peut dire qu'on a réussi l'éducation d'un enfant, c'est quand on l'aura rendu autonome. C'est-à-dire, il devient responsable, il peut s'autogérer. Un enfant qui est capable de réfléchir, comme vous l'avez dit dans l'introduction, et qui est capable de voir un problème, de réfléchir froidement, de juger, et de prendre une décision éclairée. Parce que si on ne prend pas une décision éclairée, on risque de commettre une erreur, et quand les erreurs s'accumulent, cela rentre dans la personnalité de quelqu'un, et plus tard, il pourra peut-être gagner difficilement sa vie. C'est quelqu'un qui se plaint devant des petits problèmes, on commence à se plaindre, et c'est quelqu'un qui n'a pas un point de vue personnel. C'est quelqu'un qui, à longueur des journées, on discute sur les autres, on oublie de penser à soi-même. On veut faire comme les autres, mais on oublie de se regarder, de dire, moi je suis capable de. Ah, ça, c'est la plus grande tâche que les parents ont envers leurs enfants, c'est en faire des personnes accomplies. Et pourquoi pas des personnalités accomplies. Des gens qui, devant des situations, devant des charges de la vie, ils sont capables, sans pression, sans stress, sans pouvoir se référer toujours à ce que les autres ont dit, ils sont capables de dire, et pour moi, je pense que c'est là la bonne décision. Et il prend cette décision-là, il commence à la mettre en pratique, avec courage, il continue, jusqu'à avoir des résultats. Malheureusement, nous sommes dans un environnement où, même jusqu'à l'âge de 25-30 ans, ce sont souvent les parents qui prennent des décisions à la place de leurs enfants. Et parfois qui continuent à les garder sur la même parcelle, alors qu'ils sont mariés, qu'ils devraient travailler et trouver de quoi manger. Et c'est le plus grand problème que nous avons au Congo. Au Congo, nous avons plus d'individus que de personnes. Et encore moins de personnalités. Nous avons des gens qui croient facilement à ce que les autres ont dit. Même si dans les autres, là, il y a une certaine manipulation, nous avons des gens qui n'espèrent que dans les autres. Ils espèrent rarement en lui-même. Et ils ont peut-être des références dans la vie, ça ne manque pas, mais ils oublient de regarder en eux-mêmes et de dire, moi, je suis capable de ceci ou de cela. Si je veux réussir, j'appuie sur le point A ou sur le point B pour pouvoir réussir dans la vie. Quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un qui n'attend pas de solution à ce problème auprès des autres. Vous avez besoin de manger, vous avez besoin de vous habiller, vous avez des petits problèmes dans votre foyer, vous avez des petits problèmes dans votre groupe des amis, etc., vous êtes capable de vous asseoir, de regarder là-dedans, et de faire une introspection, et de dire, oui, ici, je crois avoir mal agi, ici. Des personnes responsables, ce sont ceux qui reconnaissent aussi leur part. Quand, par exemple, un élève a échoué à l'école,
oui.
Souvent, quand on l'écoute parler, il dit, non, c'est le professeur là qui ne m'aimait pas. Il a pris mes points, il a donné à tel. Il n'a pas le temps de dire non. Au lieu d'aller à l'école, je m'arrêtais sur la route pour jouer aux cartes ou pour apprendre à conduire la moto. Au lieu d'utiliser l'argent qu'on donnait pour payer les frais scolaires, je l'ai utilisé à payer celui qui a amené sa moto pour que moi je puisse apprendre à conduire. Il met ses propres responsabilités de côté. Il voit les autres. Malheureusement, nous en avons peut-être en quantité suffisante.
Oui.
Et ça fait que dans notre pays, avancer, ça devient très, très difficile. Donc, cette tâche de former quelqu'un à s'autogérer, à se prendre en charge, à être responsable, à être indépendant, ça c'est très important. Nous avons appris que chez les Américains, ils partagent quatre valeurs. Parmi ces valeurs-là, il y a la liberté. L'Américain veut être libre. Libre, c'est-à-dire à prendre la décision sur ce qui le concerne. Et l'Américain veut être indépendant. Il ne veut pas dépendre de quelqu'un d'autre. Mais nous, malheureusement, c'est devenu monnaie courante. Si vous êtes en panne sur la route, si des jeunes gens viennent vous aider à pousser la moto ou le véhicule ou la voiture, à la fin, vous devez mettre la main à la pâte et donner quelque chose.
Il faut donner quelque chose.
Une belle fête, nous vous avons aidé à trouver une solution au problème qui vous tracassait. Ok, bye.
Alors,
continuez votre chemin. Non. Il y en a qui ne vous ont même pas aidé,
mais
vous les dépassez comme ça, ils vous disent, mais vous nous laissez comme ça. Est-ce que vous ne pouvez pas nous donner même un peu d'eau, nous voulons boire de l'eau? Au Congo, on parle sur toute la route, chacun veut boire de l'eau dans la poche des autres. Ah.
Donc, vous avez dit donc un enfant indépendant et il est libre, il est autonome, il peut prendre des décisions sur sa propre vie. Alors, par exemple, sur le plan financier, nous savons que les enfants dépendent de leurs parents, ils ont besoin de l'argent de poche, etc. Mais certains, avec l'argent de poche, peuvent s'organiser, ils font des économies, ils peuvent commencer un petit business, etc. Et ne pas tout le temps demander aux parents, c'est ce qui n'est pas le cas pour plusieurs.
L'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Si on met les enfants en contact avec l'argent dès le bas âge, je crois qu'on est peut-être en train de commettre une erreur. Il faut se dire, à quel âge est-ce que je peux donner de l'argent de poche à mon enfant qui va à l'école? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de s'organiser autrement? Parce que quand les enfants vont à l'école, si quelqu'un veut être libre, s'il y a les autres qui achètent des biscuits ou quoi pendant la récréation, lui, il ne s'avance pas, il ne va pas demander aux autres. Il dit, moi j'ai déjà déjeuné chez moi, ça me suffit. J'attends la fin de classe pour aller manger à la maison. Moi, chez moi, on ne m'a pas appris à manger n'importe où. Je mange ce que l'on prépare à la maison. Et là-dedans, il y a à boire et à manger. Il faut que les parents habituent les enfants à manger à la maison, qui n'ont pas nécessairement besoin d'argent de poche chaque jour, parce que vous ne savez pas à quoi cet argent va servir. Si vous avez un garçon qui devient adolescent, et si vous lui donnez souvent l'argent de poche, peut-être qu'il va utiliser cet argent pour mettre les unités dans les téléphones des filles qu'il convoite. Et à propos de l'argent, il faut très très bien regarder. On ne donne pas l'argent pour donner, on ne donne pas l'argent pour se débarrasser de l'enfant, pour dire il m'a trop dérangé que je lui donne l'argent, comme ça il me laisse un peu tranquille. Non, il faut bien regarder et il faut parler avec l'enfant et lui dire à quoi cet argent peut servir. Par exemple, bon, s'il a soif, il peut acheter. Il se sent un peu plus fatigué à la fin de cours, il peut prendre un transport et rentrer à la maison. Hein? Qu'on définisse avec l'enfant à quoi cet argent peut être utilisé. Parce qu'après tout, cet argent, il devient un élément de concurrence entre les enfants.
Oui.
Celui-ci a 2000, l'autre a 5000. Il achète, même il distribue. L'autre a 20 000. Mais votre enfant qui n'a que 2 000 là, il sera frustré. À moins que vous puissiez armer sa personnalité pour dire, je me contente de ce qu'on m'a donné. Dans le cas contraire, s'il y a convoitise, on peut l'entraîner. C'est comme ça que d'autres filles se retrouvent dans des situations très peu confortables. Venez, je vais vous faire voir comment celle-là a des bijoux et là l'argent tout le temps. L'argent, c'est un bon serviteur et un mauvais maître.
D'accord, Isidore Bamana.
L'enfant qui va à l'école,
oui.
Il va à l'école pour apprendre, oui.
Bien, et comment par exemple arriver à amener un enfant qui est dans la vingtaine ou un adolescent à développer l'estime de soi, parce que le sens des responsabilités, l'autonomie, ça va aussi des pairs avec c'est tout dépend aussi de l'estime que l'enfant a de lui-même.
L'estime de soi, c'est quand quelqu'un a découvert ce qu'il est. Il faut plutôt aider l'enfant à se découvrir. Avant d'aller au niveau de l'estime de soi. Il faut que cet enfant, s'il peut se découvrir, ou même si les parents peuvent l'aider à se découvrir, c'est parce qu'on le laisse s'exprimer, on lui pose des questions sur sa vie, qu'est-ce qu'il pense faire de sa vie, quel est son idéal de vie. Dans ce moment-là, l'enfant s'exprime. Et en s'exprimant, les parents ont la possibilité de découvrir qu'il est pourvu de telles capacités, de tels talents. En ce moment-là, on peut renforcer. On peut lui demander de fournir des efforts. On peut lui demander de dire, écoute, ce que tu es là, c'est ce que tu es créé comme ça. Il faut savoir à vous donner de la valeur vous-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se donnent pas de la valeur eux-mêmes. Ils pensent que les autres ont réussi et ont échoué. Et même parfois, il y a des enfants qui n'ont pas de considération pour leurs parents. Bon, ça peut arriver que chez eux, il n'y a qu'un studio ou une maison à deux pièces. Les parents sont dans une pièce et aussi ils dorment au salon. Je crois que cet environnement-là va diminuer l'estime que les enfants doivent avoir pour leurs parents. Ça va diminuer l'estime. Mais si, tout le temps, les parents ont le calme, ont la simplicité de pouvoir expliquer aux enfants leurs conditions de vie, de pouvoir créer en eux une certaine fierté pour les familles et pourquoi pas pour eux-mêmes. Donc, on aide les enfants à se découvrir. S'ils ne voient pas, on lui dit, est-ce que tu ne crois pas que tu... Donc, quand nous te regardons, chaque fois quand tu rentres de l'école, tu prends ton stylo, tu prends un papier, tu commences à dessiner. Moi, j'ai ma petite fille à la maison comme ça, elle dessine tout le temps, elle dessine bien. Quand elle veut parler, elle parle d'elle-même avec conviction. Elle a à peine 11 ans, elle est en 6e primaire, elle va présenter les nafettes demain.
Oui.
Je lui souhaite déjà bonne chance sur la radio Capi. Mais si on ne laisse pas un enfant s'exprimer, on ne pourra pas découvrir ce qu'il est.
Oui.
Et si l'enfant n'est pas habitué à faire attention à ce qui attire son attention dans la vie, il ne pourra peut-être pas se découvrir.
Bien.
On ne doit pas vouloir faire comme les autres.
D'accord. On va accueillir tout à l'heure les auditeurs et puis on va poursuivre cet entretien. Vous voulez participer à cette émission, le standard est déjà ouvert, n'attendez pas les dernières minutes. Composez le 085 42 11 545, 11 545, c'est le numéro par lequel vous pouvez intervenir dans cette émission de la vie au quotidien. On va accueillir le premier auditeur, Jonathan Bantou, scolastique, vous êtes à Lubumbashi, on me fait signe qu'il n'est plus là. On va accueillir plutôt Brunel Ndombe depuis Bandundouville. Bonjour Brunel Ndombe.
Bonjour Monsieur Jody, bonjour également à l'invité.
Bien, on vous écoute.
Oui, merci d'abord pour le sujet. Et aujourd'hui en RDC, il y a bien sûr un changement. Les enfants sont devenus les parents sont devenus les enfants. Vous savez que la loi portant protection, bien sûr, de l'enfant, loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009, c'est une loi qui protège l'enfant contre tout ce que le parent fait, bien sûr, auprès des enfants. Et vous savez que, même ici, vous verrez que les enfants de moins de 18 ans entraient, bien sûr, devant de faire le commerce. Et nous savons très bien que même la loi, qui est le décret, bien sûr, que vient de signer, bien sûr, le ministre, et ça doit bien sûr tenir compte bien sûr de l'identité de l'enfant. Et cette loi vise d'abord à garantir l'enfant de mesures administratives, sociales, judiciaires et éducatives Donc l'abandon, la négligence, l'exploitation constituent bien sûr l'atteinte à la vie de l'enfant. L'enfant doit grandir bien sûr avec des notions. Nous savons très bien qu'un enfant, c'est qui? C'est celui qui a moins de 18 ans.
Bien, Bruno,
mais voyez un peu.
Quelle est la question que vous adressez à l'invité alors?
Bon, la question que j'adresse bien sûr à l'invité est qu'est-ce que notre loi prévoit lorsque l'enfant bien sûr est en train bien sûr de faire ce que les adultes font, par exemple les enfants vendent, et qu'est-ce que la loi prévoit aux parents? Les parents qui abandonnent les enfants, qui ne prennent pas bien sûr soin de leurs enfants et qui fait en sorte que les enfants deviennent bien sûr coulounants et vagabonds, qu'est-ce que la loi prévoit? Donc c'est ce que je peux poser comme question à l'invité. Merci beaucoup, monsieur Jordi.
Bien, merci Brunel depuis Bandundouville. Isidore Bamanaï, vous avez la parole.
Merci Brunel. Bonjour. C'est drôle que vous puissiez dire que les enfants sont devenus des parents. Ils font peut-être des petits commerces. Ici, chez nous, au Kassai, il y a des enfants qui vont dans les mines des diamants. Et les parents sont restés à la maison en attendant que l'enfant revienne. Il a 15 ans, par exemple. Que l'enfant revienne s'il a eu quelque chose. Et même quand il arrive, on lui pose la question de savoir est-ce que papa, est-ce qu'aujourd'hui on va pas manger? Dans ce moment-là, les rôles sont vraiment inversés. Où les enfants qui font un petit commerce au marché. Mais quand vous posez la question sur ce que dit la loi, bon, excusez-moi, je ne suis pas compétent là-dedans. Je peux reconnaître que l'enfant, jusqu'à 18 ans, c'est l'État qui le dit, mais jusqu'à 18 ans, l'enfant est sous la charge des parents. On devra lui assurer un minimum d'encadrement pour faire de lui un adulte accompli. Si les parents ont manqué à ce devoir-là, je ne sais pas ce que la loi dit, mais je crois qu'ils ne peuvent pas se dire qu'ils sont rendus service à la nation et à la communauté. Parce que rendre service à la communauté et à la nation, c'est avoir formé des personnes qui sont capables de produire, pas seulement pour eux-mêmes. Ils sont capables d'avoir un idéal de vie, pas seulement pour eux-mêmes, ils peuvent même avoir un idéal noble. Un idéal noble, c'est dire, c'est pour moi, mais c'est aussi pour les autres, parce que je ne suis pas créé pour vivre seul, je suis créé pour vivre avec les autres, mais aussi pour les autres. Là, on entre dans un idéal noble, et ça, c'est le travail que les parents doivent rendre à leurs enfants. Que le jour que l'enfant, qui a aussi, qui s'est marié, et qui a aussi des enfants, qu'il puisse dire, ce que je suis, c'est le travail de mon père, c'est le travail de ma mère.
Oui.
Et que ce travail-là exige beaucoup de patience. Dans le domaine de l'éducation, on s'éloigne du dicton hic et nunc. On ne peut pas dire ici et maintenant. Oui, c'est vrai. Il y a des choses qu'on doit apprendre et qu'on doit accomplir ici et maintenant. Si l'enfant doit balayer la cour, on doit lui apprendre à balayer la cour. S'il doit nettoyer ses habits, c'est-à-dire il est autonome. Même si chez lui à la maison, il y a des femmes de ménage, l'enfant doit apprendre à un certain âge à nettoyer lui-même ses habits et à les repasser.
Bien, Isidore Bamanaï. D'accord, Isidore Bamanaï, oui. À quel âge exactement on peut déjà responsabiliser, donner des responsabilités à un enfant et l'aider à devenir autonome? Est-ce qu'il y a un âge précis?
Je dis, il n'y a pas un âge précis. On donne des responsabilités à un enfant selon l'âge. Si un enfant a 10 ans et qu'il a derrière lui 2 ou 3 autres enfants, et que les parents doivent se rendre quelque part, on lui donne des responsabilités. Et on lui dit exactement, pendant notre absence, ceci doit être comme ça, ceci doit être comme cela. Vous fermez la porte, quand quelqu'un arrive, n'ouvrez pas la porte, répondez-lui, les parents ne sont pas là, revenez à telle heure. Veillez sur vos petits frères et sur vos petites sœurs. C'est déjà une responsabilité. Si l'enfant, la maman travaille à la cuisine, s'il y a une fille qui a 5 ans, qui s'approche pour pouvoir l'aider à nettoyer les assiettes, elle va s'approcher. Si le parent est dans son atelier, il fabrique les tabourets, etc., ben son enfant est là à côté. On peut lui confier des petites responsabilités. Il a fini le tabouret, tu veux déplacer, déposer dans le dépôt, tu veux me passer le marteau ou la scie, tu veux me donner les coups qui sont là, viens aussi regarder, voir ce que je suis en train de faire. Ça dépend de l'âge. C'est à ce moment-là, on lui donne des responsabilités qui correspondent à son âge. Si on attend, on va se réveiller peut-être plus tard, parce que je connais le cas d'une fille qui avait dit chez ses parents où il y avait autant de domestiques, de femmes de ménage, jusqu'au moment où elle s'est mariée, elle ne savait pas préparer. Et ça fait beaucoup de désordre dans sa famille. Elle a eu des enfants, c'est toujours pas nettoyer les habits. Pour nettoyer les habits des enfants, il doit les ramener dans la famille de ses parents. Oh, pour que les domestiques de là fassent leur travail. Donc, vous voyez, on n'a pas appris à se prendre en charge de ce côté-là. Donc, on ne doit pas attendre. On ne doit pas attendre. Comme je l'ai dit, selon l'âge, on confie des responsabilités à un enfant, selon l'âge, et ce qu'il peut réellement. Et même on lui dit, quand nous revenons, nous devons savoir qui est venu ici pour nous rendre visite et pourquoi il était venu. Ça, c'est facile à faire, même pour un enfant de 10 ans.
Oui.
Il va donner rapport au retour des parents. Donc, à chaque âge, on ajoute. À chaque âge, on ajoute. Jusqu'au moment où l'enfant va se dire, ok, j'ai grandi, maintenant je quitte mes parents.
Bien.
Parce que l'éducation, c'est l'éducation à la séparation.
D'accord, on va accueillir Félicien Tshibangu depuis Luputa, dans la province de la Lomami. Monsieur Tshibangu, bonjour. Quelle est votre préoccupation?
On attend ses parents ou éducateurs. Qu'est-ce que donner des ailes sans le lâcher dans les vies? Et tenir la confiance et la responsabilité de construire petit à petit. Et pour aider un jeune à devenir autonome, il faut les rendre.
Allô?
Est-ce que vous m'attendez?
Difficilement, on vous entend difficilement. Quelle est la question? Pouvez-vous reprendre la question?
Oui, la question est la suivante. Et monsieur le serviteur du jour, qu'est-ce qui empêche les jeunes à ne pas devenir autonome?
D'accord. Qu'est-ce qui empêche les jeunes à ne pas devenir autonomes? D'accord. Isidore Bamana, à vous la parole.
Oui, merci Félicien. Ce qui empêche les enfants à devenir autonomes et indépendants, moi je crois que c'est seulement les parents. Il y a des parents qui croient que l'enfant doit demeurer enfant, l'enfant doit dépendre des parents en tout et pour tout. Un enfant comme ça, moi, je ne sais pas à quoi il est utile dans la communauté. Il y a des parents qui ne laissent jamais les enfants faire ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils veulent faire, qui étouffent leur liberté. Il y a des parents qui donnent l'impression à leurs enfants que le seul responsable de ta vie, c'est moi. En dehors de moi, tu es nul. Tu ne peux rien faire. À ce moment-là, on a effacé toute sa personnalité. On ne lui permet pas d'éclore sa personnalité, mais de pouvoir s'autogérer. Et un enfant qui vit, qui grandit dans cet environnement-là, rassurez-vous, même plus tard, il n'aura rien à donner à ses propres enfants. Il n'aura rien à donner à ses propres enfants. Il va continuer à parler de ses problèmes à ses parents ou à ses grands frères et à dire, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Et Mais souvent, quand on pose cette question de qu'est-ce que moi je peux faire, c'est pas une question de révolte ou de révolution, c'est plutôt une question d'indignation. Une question de laisser tomber les bras. Or, François de Saint-Exupéry a dit, l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Dans la vie, il y a toujours des obstacles. Quand un enfant grandit, qu'il a un obstacle, il a une question à poser, il vient vers les parents, il ne faut pas que les parents le renvoient, il faut que les parents écoutent la question. Si la question n'est pas claire, on lui demande d'expliquer un peu ce qu'il veut savoir, et puis on lui retourne la même question. Et toi, qu'est-ce que tu crois de ce que tu as posé comme question là? Et l'enfant va se dire, eh, donc on tient compte de ma présence, on croit en moi, on croit que je peux, à cette situation, trouver moi-même la solution. Et quand il a proposé une solution, si les parents trouvent que c'est pas à 100%, ils peuvent lui faire réfléchir en disant, mais regardez de l'autre côté. Si on agit de telle autre manière, qu'est-ce que tu crois? Tu crois vraiment qu'on peut arriver à une solution, à une bonne solution? C'est comme ça que l'enfant apprend à être autonome. Et si les parents ont oublié de faire ça, quand l'enfant vient poser des questions, soit on le chasse, soit on lui donne une réponse à peu près. Parce que l'enfant peut poser une question qui gêne les parents. L'enfant peut poser une question qui gêne les parents. L'enfant peut demander à sa mère enceinte, mais maman, comment ton ventre est comme ça ballonné? Il y en a qui disent, arrête ici, tu m'embêtes. Mais il y en a qui disent, non, j'ai beaucoup mangé.
Oui, ce qui n'est pas possible de manger. C'est du mensonge, évidemment.
Oui, c'est un mensonge. En ce moment-là, l'enfant, le soir, vous le voyez à table, là, il ne veut pas quitter. La nourriture s'est épuisée, il dit, non, donnez-moi à manger. Il est encore faim. Qu'est-ce qui s'est produit dans sa tête? Il dit, je vais avoir un ventre comme celui de maman. Donc, l'enfant vient, s'il n'a pas de réponse, on lui donne des réponses dans des mots qu'il peut comprendre selon son âge. Il peut comprendre. S'il n'a pas compris tout de suite, on lui dit, bon, attends, on verra. Au fur et à mesure, tu arriveras à comprendre ce que nous t'avons dit aujourd'hui. Bien. C'est comme ça qu'on prépare les personnes à devenir des individus utiles à la société.
Bien, nous parlons de comment aider son enfant à devenir autonome avec Isidore Bamanaï, psychologue et éducateur à la vie. On a un autre auditeur en ligne depuis la province, il est plutôt à Kinshasa, James Tshiseba. Vous voulez également participer, composer le 085 42 11 545. James Tshiseba, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bien, vous êtes à Matete. Qu'est-ce que vous avez à me dire par rapport à ces sujets du jour?
Oui, à ces sujets du jour, moi je dirais, pour orienter l'enfant, que l'enfant devienne autonome, tout d'abord, avant, on va d'abord inviter aux enfants que l'enfant ne devienne pas un vagabond. Vagabondage d'abord. Et après, on oriente l'enfant dans des bas âges. Comment un enfant.
Oui. Allô? Voilà, d'après M. Tshiseba, il faut, pour aider un enfant à devenir indépendant, voilà, et ne pas le laisser vagabonder, voilà. On va accueillir Charles depuis la ville de Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à l'invité.
Bien, qu'est-ce que vous avez à nous dire Charles?
Ainsi qu'aux auditeurs et auditrices de Radio Capi.
Ok.
Vous me suivez?
Oui, oui, on vous capte 5 sur 5. Allez-y.
Ok, merci. Permettez à ce que je puisse au moins démarrer avec mon intervention par une petite explication. Et je vais finir par deux ou trois petites questions comme ça envers l'invité.
Allez-y rapidement.
Ok, merci Monsieur Jody. Ok, merci Monsieur Jody. L'invité vient de nous dire que non, il faut assez que les parents puissent rendre les enfants autonomes. Moi, j'ai une petite explication. Parce que nous sommes en train de voir que non, beaucoup de nos parents, surtout ici au Congo, je ne sais pas si en Afrique aussi, ces comportements existent, mais moi, ce que je parle, c'est de mon pays d'abord. J'ai atteint l'âge comme ça, entre 18, 20. Il y a de ces parents-là qui ne se soucient plus encore de ces enfants-là. Le fait de ne pas se soucier de ces enfants-là, est-ce que cela est aussi un moyen de dire que non, et c'est une manière de les rendre autonomes? Ou soit-il, pour rendre une personne autonome, est-ce que ce n'est pas un moyen de lui accompagner à travers certains gestes et que ce dernier comprendra que non, donc ça me faudra ce que je puisse appliquer ce qu'on est en train de me dire ou soit en train de me montrer que cela me permettra de devenir autonome. Je finis maintenant par des questions. Est-ce qu'un parent qui a abandonné son enfant vit que ce dernier est vivant, de fait devenir celui-ci autonome? Un parent qui a l'habitude de discriminer ses enfants, de les épargner, de les diviser, cela aussi est une manière de faire devenir des enfants en étant des personnes autonomes?
D'accord. Merci pour toutes ces questions, Monsieur Charles depuis Bounia. Isidore Bamanaï.
Oui, merci Jody. Bonjour à Charles, bonjour à Tshiseba, à Matete. J'espère que Tshiseba comprend bien tout ce qu'il a mis dans le nom vagabond. Vagabond, c'est-à-dire quelqu'un qui va à gauche, à droite, sans un but précis. N'a rien à faire, il commence à tournoyer, il quitte sa maison, parfois, il va se retrouver plus loin à Kintambo ou à Matadikibala. Il ne sait pas pourquoi il est sorti. Mais c'est celui-là qui est vraiment vagabond. Mais les parents devraient aussi se poser la question de savoir pourquoi l'enfant, ils ne sont pas en mesure de le retenir à la maison. Et sans oublier que l'enfant peut toujours sortir de la parcelle, mais qu'il soit en mesure de dire à ses parents: je sors pour 20 minutes, pour 30 minutes, pour une heure. Nous avons à jouer au foot. Ou nous avons notre élève qui est malade. Je vais aller le consoler. Celui-là, il sort pour un but précis. S'il n'y a pas de but, oui, on peut faire la promenade. On peut faire la promenade pour se détendre. C'est aussi un but. Mais quelqu'un sort comme ça, qui ne sait même pas où il va aller, celui-là, il devient vagabond. Les parents devront se poser la question de savoir pourquoi notre enfant est devenu vagabond. Peut-être qu'il ne mange pas suffisamment à la maison. Peut-être qu'on ne l'écoute pas. Peut-être qu'on le gronde à tout moment. Peut-être qu'on l'étouffe. Tout ce qu'il veut dire, on l'étouffe. Il y a des enfants qui n'ont pas le courage de dire à leurs parents: voilà, ce que vous faites là, ça ne me plaît pas. Ou peut-être que ce sont des disputes tout le temps entre hommes et femmes. Ce sont des disputes. Peut-être dans ces disputes-là, il y a des injures. Ça peut déboucher sur une bagarre.
Oui.
Un enfant comme ça, il peut sortir sans motif quelconque. Il peut se dire: ah, je ne peux pas continuer à voir des choses comme ça. Et il devient vagabond.
Isidore Bamanaï.
Vous avez étudié sérieusement la question.
Oui. Isidore, nous avons par exemple la réaction de Monsieur Clément qui vient de nous écrire. Il dit: pour aider mes trois filles âgées de 10 à 16 ans à apprendre à mieux se prendre en charge, j'ai décidé de remercier la femme de ménage afin qu'elles puissent, pour que les filles puissent assumer seules certaines responsabilités pendant toute la période des vacances. Qu'en pensez-vous, Monsieur Isidore?
Bon. C'est sa décision. J'espère que cette décision a été précédée d'un moment de réflexion et une réflexion froide pour des raisons valables. S'il en est arrivé là, je n'ai aucun commentaire à dire. Mais j'allais aussi dire à Charles, à Bougne, que abandonner les enfants, écoutez, ces enfants-là vont grandir avec l'esprit. Les enfants doivent grandir dans la mouvance des parents, avec l'esprit des parents. Encore faudra-t-il que les parents soient en mesure d'avoir un esprit quelconque pour éduquer leurs enfants. S'ils n'ont pas un esprit pour éduquer leurs enfants, ils les ont abandonnés alors qu'ils vivent avec eux dans la même maison. Qu'est-ce qu'ils apportent à ces enfants-là? Parce qu'il y a des enfants qui dorment ma famille. Mais ils dorment chez eux. Est-ce que les parents les ont abandonnés ou pas? Ils dorment ma famille. Il y a des enfants qui ne savent pas aller étudier à l'école. À l'école secondaire, on paye les frais scolaires. À l'université, on paye les frais académiques. Si les parents ne payent pas,
oui.
Il a encore de moyens, il ne paye pas. On les a abandonnés, non?
D'accord, merci beaucoup.
On va
accueillir encore d'autres auditeurs. Comment aider son enfant à devenir autonome? On en parle aujourd'hui dans Okapi Service. Composez le 085 42 11 545 pour participer à cette émission. On va accueillir John Paul Chité depuis Lomami à Cabinda. Et puis nous avons en ligne Jano Luembwe depuis Kolwezi. John Paul Chité, bonjour.
Bonjour, merci, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, John?
Oui. Oui. D'après moi, je pense que le thème que la radio Okapi nous a proposé est tellement pertinent. Du fait que lorsque nous regardons dans la vie actuelle et dans la vie pratique des enfants, il se fait que certains enfants qui ne veulent pas toujours être autonome, ou bien les parents qui ne veulent pas que leurs enfants puissent devenir autonomes dans la vie, ils ne veulent pas donc les associer. Donc pour moi, il faut associer les enfants, lorsque surtout à la période où nous tendons ici des congés ou des vacances scolaires, oui. Il faut au moins faire participer les enfants aux travaux. Donc, vous pouvez amener un enfant là où vous travaillez. D'abord, comme une visite, vous amenez l'enfant, comment vous travaillez, et surtout dans le métier. Et vous amenez les enfants comme ça, ils voient comment vous travaillez, et vous le faites aussi un petit essai. Il essaie d'abord. S'ils peuvent retenir à ce moment-là, les enfants, lorsqu'ils auront terminé leurs études ou bien dès qu'ils seront seuls dans la vie pratique, ils peuvent au moins pratiquer tout ce qu'ils voyaient ou bien ils apprennent.
D'accord,
ils
merci.
Ils apprennent auprès de leurs parents.
Auprès des parents, voilà. Évidemment. Merci beaucoup, M. Paul Chité. Jeannot Louembwe, depuis Kolwezi. Bonjour. Allô, Jeannot Louembwe, vous êtes là?
Monsieur Jody, je vous salue. Hein. Vous m'entendez?
Oui. Bienvenue, on vous écoute.
Merci beaucoup. Je salue l'invité et les auditeurs. Merci du choix fait sur le thème. Alors, je voudrais dire ceci. Hein.
Mm-hmm.
Il est bien beau de pouvoir préparer ses enfants à pouvoir faire face à la vie, mais la manière que le font les parents en Afrique, moi, je trouve qu'elle n'est pas bonne. Elle est mauvaise. En Afrique, on ne prépare plus les enfants à affronter la souffrance que l'on aura connue comme parent. On ne facilite pas la tâche à ces enfants-là. Je vais vous expliquer. Vous allez voir que, étudiant les parents africains, on prépare les enfants à réinventer la roue. J'ai vécu ma vie. J'étais eu comme enfant. Alors, je t'apprendrai à faire ce que moi j'ai fait sans te faciliter la tâche. C'est ce qui fait que, d'abord, en Afrique, nous avons un taux élevé de chômage et de pauvreté. Les parents, d'abord, bien qu'ayant la volonté de préparer l'avenir de leurs enfants, mais ils ne la préparent pas bien, comme si je peux le dire comme ça.
Mm.
On nous apprend à refaire la roue. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, j'ai vécu ma vie de souffrance, moi, parent. Toi aussi, je t'apprends à vivre cette vie de souffrance sans te faciliter la tâche. C'est ce qui fait que plus nous avons, les parents ont beaucoup d'enfants, et moins ces enfants ont la chance de pouvoir de s'en sortir dans la vie. Vous comprenez?
Oui.
De part d'abord, nos croyances. En Afrique, c'est là où on te dit, les enfants sont une richesse, les enfants sont ceux-là qui vont prendre soin de moi plus tard. On a ces slogans-là sans savoir préparer à ces enfants à pouvoir vraiment être ceux-là qui vont prendre la relève plus tard. Vous comprenez? Donc, c'est bien de le faire, mais nous nous y prenons très mal, nous, parents africains. Vous comprenez?
Ils ne facilitent pas la tâche aux enfants.
Les enfants n'ont pas vraiment la tâche, donc on leur met face à certaines réalités qui font qu'ils réinventent la roue. Ils sont obligés de commencer à construire leur vie par eux-mêmes, sans être au préalable facilité hein, par le parent. Parce que dans la logique des choses, ce sont les ascendants qui sont les parents, qui doivent s'assurer de la vie ou de la survie de leurs enfants, de leur avenir.
Oui.
Mais chez nous, c'est que je suis parent, je te mets au monde, je te mets face à ton avenir, à toi, selon
que tu vas... Tu dois aussi souffrir, et puis voilà, t'es débrouillé aussi.
Souffrir, comme moi j'ai souffert, souffre à ta manière aussi, et ça en sort toi. C'est pas ça vraiment, préparer ses enfants à un avenir. Ce qui fait que chez nous, nous souffrons toujours en cycle. Est-ce que nous avons, par exemple, je vais finir, nous avons la culture d'ouvrir, même si on a un petit travail, d'ouvrir un compte bancaire à ses enfants. Vous comprenez. De préparer un peu un avenir des enfants. C'est comme ça que beaucoup d'enfants dans une maison, on ne sait plus les envoyer à l'école pour s'assurer qu'ils aient un avenir meilleur.
Bien, merci.
Nous y prenons mal.
D'accord, merci. Jean-Louis Mboué depuis Kolwezi. Charles Kisimba, et voilà, désolé, Charles n'est plus là. Isidore Bamanaï, à vous la parole.
Oui, merci beaucoup. J'ai écouté les deux derniers intervenants. Ils n'ont pas tellement posé de questions. Ils ont donné leur point de vue. Ils ont dit des choses qui sont très valables, qui font référence à avoir des parents responsables. Avoir des parents qui se disent, nous avons fait venir au monde des êtres humains, nous devons nous en occuper. Si par exemple le dernier intervenant ici, il dit, vous devez souffrir comme moi aussi j'ai souffert avant d'arriver à ce que j'ai maintenant aujourd'hui, il le fait dans le but d'apprendre à l'enfant que dans la vie, il y a des moments de souffrance, et quand il y a souffrance, voilà comment vous pouvez vous comporter. Si c'est dans cet esprit-là, c'est une façon de former la personnalité de l'enfant. Que l'enfant ne puisse pas croire à la facilité des choses. C'est pourquoi moi, quand on a parlé de maternité gratuite, je me suis dit, ah, c'est quoi ça ici au Congo où la femme doit mettre au monde et on prend en charge tous les frais par les gouvernements. Les gens risquent de mettre au monde autant d'enfants parce que l'État a dit bon. Mais si on est responsable, on sait pourquoi on a créé les enfants. Parce que faire venir les enfants au monde, c'est créer. Nous sommes co-créateurs avec Dieu. Et nous devons savoir pourquoi nous avons fait venir ces enfants au monde. S'il y a un moment où les parents peuvent dire, bon, tu traverses, allez à l'école. L'école, c'est juste à côté ici. Ne me demandez pas de frais de transport. Marcher à pied pour aller à l'école. C'est pas faire souffrir l'enfant. C'est pour lui dire déjà, attention, dans la vie, il y a des choses pour lesquelles vous devez arriver à une abnégation.
Isidore Bamana, il peut y arriver que les enfants aient l'impression que les parents mettent trop de pression sur eux pour les amener à devenir autonomes et ça peut les irriter. Et les parents ne vont pas atteindre l'objectif visé.
Exact. Exact. Si on fait trop pression sur les enfants vont se dire, mais c'est quoi ça? Ce sont nos parents ou ce sont d'autres personnes? Mais apprendre à un enfant, c'est à travers les petits gestes de chaque jour. Comme celui qui a dit qu'il y a des parents qui ne laissent pas leurs enfants participer à ce qu'ils sont en train de faire à la maison. Une maman est en train de coudre. L'enfant peut venir juste se mettre à côté pour voir. Il y en a qui croient que ça devient une distraction. Et qui disent, ah, va jouer là-bas. Alors que l'enfant peut, et avec un morceau d'étoffe, on peut lui passer les ciseaux, il peut commencer à essayer de couper. Parce que nous voyons les enfants faire ça quand ils sont à l'âge de 6 ans. Hein? Ils fabriquent des avoirs pour les couper. Ils fabriquent eux-mêmes. Donc ils ont envie d'apprendre. Si les parents font quelque chose et qu'ils n'informent pas les enfants, ils ne forment pas les enfants à ce qu'ils font. C'est ainsi que nous assistons chaque fois quand le papa décède, les enfants se battent pour les biens que papa a laissés. Les enfants se battent. Eux vendent la parcelle. On vend la parcelle, on se distribue l'argent, on bouffe l'argent, et par après, ils retournent à leur vie de misère. Donc, il faut apprendre aux enfants à faire quelque chose. Les pédagogues disent « learning by doing », apprendre en faisant.
Oui.
Mais si le parent est menuisier, le parent est maçon, s'il ne peut pas susciter chez les enfants l'intérêt pour ce travail-là, mais n'est pas les obliger. Si l'enfant ne montre pas l'intérêt pour devenir maçon, il peut avoir ses propres raisons. Peut-être que lui, il veut devenir infirmier. Donc, c'est là toute la question. On fait quelque chose, il faut que les enfants voient ce que vous êtes en train de faire, au besoin qu'ils participent aussi à ce que vous êtes en train de faire. Qu'ils participent. En participant, ils apprennent. Même vous pouvez leur confier des tâches. D'ailleurs, au marché, prenez l'argent, achetez-moi les boîtes que je dois utiliser pour fabriquer les lits, les chaises, etc. Achetez-moi les boîtes de telle qualité dans tel magasin, amenez-moi la facture. À ce moment-là, l'enfant apprend que quand on achète quelque chose, on réclame la facture et on vient justifier avec une pièce comptable. On lui a appris ça chez lui, non? Donc les parents doivent absolument jouer leur rôle qui donne à la communauté des personnes autonomes et responsables. En ce moment-là, nous pouvons aller de l'avant. Nous avons malheureusement des personnes, même des adultes, même des familles entières, où on ne dépend que des solutions qui viennent d'ailleurs, du grand frère, de l'oncle, ou même des hommes politiques. Nous voyons bien pendant la campagne comment les hommes politiques manipulent les gens. Pour un t-shirt, pour 2000 francs, les gens courent dans tous les sens pour avoir 2000 francs. Moi, je vis ici à Mujimaï, quelqu'un qui a abandonné son service était un Guado. J'espère que quand je dis Guado chez nous ici, on comprend de quoi je veux.
Oui, parler.
Pendant la campagne, il abandonne, ou il quitte son lieu de travail, il va participer à la campagne d'un homme politique pour revenir avec 1 500-2 000 francs par jour. Alors que sur le lieu de son travail, il peut réaliser 10 000, 20 000, même 30 000. Par jour. Et nous avons des gens comme ça, malheureusement.
Bien.
On ne sait pas pourquoi.
D'accord. Et on merci beaucoup, oui. Isidore Bamanaï. On retient que pour aider un enfant à devenir autonome, vous avez dit que l'aider à développer l'estime de soi, que l'enfant arrive à se découvrir, lui donner l'opportunité de s'exprimer. Et les parents doivent aussi prendre en compte leur point de vue et puis leur accorder des responsabilités. Et vous avez aussi parlé de learning by doing. Donc, ce que vous faites, vous pouvez aussi les associer, qu'ils observent et qu'ils fassent aussi la même chose. Tout ça, ça rentre dans le processus des préparations à l'autonomie dans la vie. Voilà, et pour terminer, qu'est-ce qu'on retient, Isidore Bamanaï, en quelques secondes?
Pour terminer, on retient que ce travail ne doit pas provoquer à nous des moments d'irritation. Il ne faut jamais faire la pression sur un enfant, parce que quand vous lui faites la pression, il risque d'abandonner son chemin et entrer dans le chemin que vous voulez absolument lui montrer. Il faut habituer l'enfant à s'exprimer, il faut s'approcher de l'enfant, lui poser des questions sur son avenir, l'aider à avoir un idéal de vie, et pour papa un idéal noble.
Bien,
à
merci.
À ce moment-là, ce qu'il fait, il le fait pour lui et pour les autres.
Isidore Bamanaï, psychologue et éducateur à la vie, merci.
Merci, je dis au revoir aux auditeurs de la radio Capitaine.